point de mire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Le prix Albert Londres, c'est ce que fait aujourd'hui avec nous sur Canal Académie M. Henri Amouroux, membre de l'Académie des sciences morales et politiques.
Bonjour, c'était assez passionnant et très instructif. Alors, Albert, nous avons donc suivi les pas d'Albert Londres. Nous sommes allés d'abord en 1999 à Cayenne, parce qu'Albert Londres a écrit un très grand livre qui a eu une influence d'ailleurs sur l'administration. C'est pas mal, c'est bien quand un livre ou des articles ont une influence sur l'administration.
Oui, c'est un grand honneur. Oui.
C'est rare aujourd'hui. Alors, il avait écrit un livre sur le bagne, parce que, vous savez, il y avait des bagnards. Ça a duré d'ailleurs...
C'était dans les années combien ? Dans les années 20, 25.
Le bagne a duré jusqu'après la guerre de 40, n'est-ce pas ?
Ah oui,
on n'y envoyait plus de gens, mais il y était toujours. Bon, il restait. Et c'est à la fin, après les années 40, qu'on n'a plus envoyé et libéré plus ou moins les gens qui étaient là-bas, ceux qui étaient là-bas. Le bagne, les gens vivaient dans des conditions très, très dures. Avec d'ailleurs des peines, on parle quelquefois de la double peine, mais c'était là des doubles peines encore plus sévères que ce qu'on imagine aujourd'hui. La condition sociale chez les bagnards, bien entendu. Donc il situe sa condition sociale, sa situation, son âge. Bref, Albert Londres alors a fait ces articles, cette série, contre les conditions de vie effroyables des bagnards. Nous sommes donc allés en 1999 en Guyane. Nous avons vu les restes du bagne, qui sont d'ailleurs très impressionnants, alors que...
On y sent encore quelque chose.
Oui, naturellement.
Une émotion.
Le cimetière des bagnards, lorsque souvent ils étaient mangés par les requins, on les jetait à la mer, ils étaient boulottés par les requins.
Alors quand vous dites nous, c'est le jury, vous êtes combien ?
Le jury, c'est ceux qui voulaient du jury. Nous sommes 19 à 20 au jury. Parce que le jury, est, depuis que je suis président, depuis 20 ans, donc à peu près 20 ans, les lauréats, puisque nous avons depuis 1985, depuis que je suis président, un prix de l'audiovisuel. C'est Henri Turenne qui avait eu l'idée de ce prix de l'audiovisuel.
Donc il y a deux prix, un prix pour la presse écrite et un prix pour l'audiovisuel.
Et donc nous venons, et les lauréats de l'année précédente participent au jury. Ils votent.
Donc il y a au moins deux lauréats. Alors...
Non, mais c'est pas ça. Je vous dis, les lauréats de l'année précédente participent au jury. Vous m'avez posé la question, combien
trouvent
le jury ?
Donc ça dépend.
Nous sommes institutionnellement 18, si vous voulez, et les lauréats de l'année précédente viennent participer au vote. Ils ont exactement les mêmes droits que les membres du jury. Ils votent comme nous, etc., mais ils ne font ça qu'une fois.
Voilà.
Après, ils ne reviendront pas.
Après Cayenne, alors, où vos pas vous ont-ils mené dans les traces d'Albert Londres ?
Après Cayenne, sur le Tour de France, nous avons fait 4 étapes des Alpes, car c'est passionnant, enfin, 4 étapes des Alpes, je vous jure, dans la course, avec les coureurs, enfin, pas à vélo, en voiture naturellement, avec les coureurs dans la course, pilotés d'ailleurs par un ancien... Parce qu'eux repèrent les mouvements du peloton, c'est très dangereux, naturellement, ils savent ce qu'il faut faire, ils savent ce que va faire le coureur qui est devant, à travers ses mouvements, ils doublent quand il faut, etc., etc. Ils sont très attentifs aux ordres du directeur de course.
Et puis ça vous amenait dans les Alpes, au sommet.
Et nous avons fait, alors il y a une ville étape, c'est Courchevel, nous en avons profité. Je reviens sur la Guyane, nous avons créé un lycée Albert Londres. En Guyane, à Courchevel, à la mairie de Courchevel, il y a une salle Albert Londres depuis. Et bon, alors nous sommes arrivés à Courchevel, là, après avoir fait 4 étapes. Les confrères venaient de Paris pour suivre une étape, repartaient à Paris, et puis se sont tous retrouvés à Courchevel. N'est-ce pas ? Parce que dans la voiture, il y avait 3 places. Dans la voiture, il y avait le pilote et puis 3 places. Donc, on a fait 4 étapes. Alors, les confrères revenaient. Et sont revenus à Courchevel. Nous avons fait ça. Pourquoi Albert Londres avait-il suivi le Tour de France ? C'est lui qui a créé l'expression « les forçats de la route ». C'est Albert Londres qui l'a créé. Elle est toujours, d'ailleurs, employée aujourd'hui. Il avait suivi le Tour de France parce qu'à l'époque, il avait une petite amie, il a eu pas mal de petites amies, et il avait une petite amie qui n'était pas du tout d'accord pour qu'il aille en Chine ou un truc comme ça, très loin, parce qu'il était
donc pas de grands reportages très loin.
Mais le Tour de France, c'est 3 semaines, moi, rigueur, 3 semaines. Alors il a fait le Tour de France, puis après nous sommes allés à Reims. Pourquoi Reims? Parce que en 1914, les premiers articles signés de Talbert Londres, dans un journal qui s'appelait Le Matin d'ailleurs, les premiers articles signés ont été au moment du bombardement de la cathédrale. Vous savez, pour nos auditeurs le savent, parce que je sais qu'ils sont passionnés par l'histoire et qu'ils connaissent très bien l'histoire. Bon, les Allemands avancent, la grande attaque allemande, la grande avance à la menace sur Paris, ça les amène au-delà de Reims. Ils prennent Reims dans la foulée de leur avance, puis il y a la victoire de la Marne, et la victoire de la Marne entraîne le recul qui est important, nous espérions plus long, mais les hommes d'armée française sont fatigués, puis nous manquons d'ailleurs de munitions. Bref, enfin, la bataille de la Marne a des résultats heureux, mais le front se fige, et vous avez à ce moment-là la guerre de tranchées. Et les Allemands se retirent à 8 kilomètres, confrère, des illusions sur son talent, et après on ne peut plus lui faire d'observation, on ne peut plus lui apprendre son métier, du moment qu'il a signé, c'est fichu. La signature devrait se conquérir, la signature devrait être une longue conquête. Moi, je me souviens très bien que j'ai signé après 3 ou 4 ans d'articles qui n'étaient pas signés. Et puis, j'ai d'abord mis mes initiales. Et lorsque j'ai mis mon nom, c'était à Sud-Ouest, à Bordeaux, je suis rentré très fier. On avait droit à une morasse bronzée. Aujourd'hui, il n'y a plus de morasse bronzée, tout ça. Le plomb a disparu dans l'imprimerie. Mais enfin, c'était comme ça à l'époque. À l'époque, il n'est pas quand même Mathusalem, il ne faut pas rêver. C'était quand même ça en 48 ou 49. Je suis rentré chez moi très heureux pour montrer ça à ma femme. J'ai payé à boire naturellement à toute l'équipe de metteurs en page. Mais j'étais très content, très
fier. Et je me souviens même qu'il y avait des cordes, des caractères, des grandeurs de cordes selon les signatures. Si vous étiez grand reporter, votre signature était signée plus gros que si vous n'étiez qu'un reporter ordinaire.
C'était en 12 ou en 14. Oui, bien sûr, naturellement. Alors, donc
Albert Londres avait 30 ans,
signé,
1914.
Oui, signé pour la première fois ces articles. Alors nous sommes allés à Reims et nous avons été très bien accueillis par l'archevêque, qui est un homme remarquable d'ailleurs, a été très bien accueilli par l'archevêque, qui, naturellement, l'église et l'État, la cathédrale, mais enfin, quand même, il faut passer par l'archevêque. Bon. Et l'archevêque nous a donné l'autorisation, et il a parlé, j'ai parlé, et c'est très impressionnant, vous savez, de parler dans la cathédrale de Reims.
Oui,
très impressionnant.
Toute l'histoire, le poids de l'histoire, évidemment.
De parler là, comme ça, aux gens qui sont là, il y avait 500 ou 600 personnes qui étaient venues, des Rémois, qui avaient, le journal de Reims, l'Union, avait été très bien, s'était bien occupé de parler de notre manifestation, donc il y avait un public. Et l'idée, ce que nous avons réalisé, c'était de faire lire les deux articles qu'Albert Londres avait consacrés, n'est-ce pas, à la cathédrale blessée, à la cathédrale atteinte par les obus, et raconter cela, n'est-ce pas, comme il était monté sur le front à pied, d'ailleurs, il finissait à pied avec son photographe. Et donc, il a raconté ça, et les deux articles ont été lus par un acteur, qui donc a donné lecture. Et avant, j'avais parlé, très impressionné, parce qu'on se dit Jeanne d'Arc a été là, elle parlait là, elle était là, enfin, s'est tenue là, peut-être à 1 mètre près, ou à 2 mètres près, ou à 5 mètres près. Quelle importance, c'était là. Vous n'êtes pas à 50 mètres, vous êtes là, dans le cœur. Et puis l'archevêque a parlé, très bien, d'ailleurs, c'est quelqu'un de remarquable.
Alors Henri Amoureux, c'est vous qui avez toutes ces idées pour le prix Albert Londres, qui
attendez,
mettait tout cela
après,
en scène.
Oui, et après nous sommes allés en Russie. Pourquoi la Russie?
En Russie.
En Russie, à Moscou, parce qu'Albert Londres avait fait un reportage, il était l'un des premiers, après la révolution d'octobre, en 1920, n'est-ce pas, il a été en Russie, il avait fait son reportage qui s'appelait « Dans la Russie des Soviets », et c'était un journaliste très bourgeois, tout en étant d'ailleurs libre et quelquefois libertaire, mais quand même, évidemment, il arrivait de Paris, c'était la grande pagaille en Russie. Il a fait un livre qui s'appelle une série d'articles dans la Russie des Soviets. Et puis, nous sommes allés donc en Russie avec le prix Albert Londres. Et nous allons en Chine. Pourquoi? Parce qu'Albert Londres, en 1925, se trouvait en Chine. Alors la Chine déchirée par la guerre civile, par les guerres civiles entre généraux ennemis les uns des autres, etc. Et également parce qu'il est mort en revenant de Chine en 1932. Ils étaient allés en Chine, ils pensaient avoir des révélations extraordinaires. On n'a jamais su, en vérité, ce qui s'était produit, ce qu'il avait découvert et quel était son reportage. Ce reportage n'a jamais paru pour une raison très simple, c'est que Albert Londres rentrait sur un bateau très moderne, un paquebot français très très moderne, qui s'appelait Georges Philippard. C'est un des bateaux les plus modernes de la flotte française et qui a pris feu là en 1932, au mois de mai, je crois, en 1932, et qui est... Albert Londres n'a pas pu s'échapper. Il y a eu 80 ou 90 personnes qui sont mortes, et il était de ceux-là.
Un drame terrible, oui.
Oui, et d'ailleurs, dans la... pour faire partie du jury. Alors, bon, c'est un prix important.
Très prestigieux.
Oui, bien sûr, ceux qui ont eu le prix, et nous y croyons beaucoup, moi j'y crois beaucoup, personnellement.
Donc, depuis 1933, qui étaient vos prédécesseurs alors, à la tête de ce prix?
D'abord, il y a eu Édouard Alcé, qui était un très grand journaliste, qui écrivait dans un journal que j'ai lu quand j'avais 15 ans, ou 16 ans, ou 14 ans, je ne me souviens plus, parce que mes parents qui habitaient Périgueux, donc j'habitais Périgueux, lisaient un journal qui s'appelait Le Journal. Alors, bon, mes parents lisaient Le Journal. Donc, j'ai lu Édouard Alcé qui écrivait dans Le Journal. Puis, c'était un très grand reporter, un grand ami d'Albert Londres. Il y avait des gens très remarquables, comme Henri Béraud, qui était un journaliste, qui était un très grand journaliste. Bon, alors, Édouard Alcé. Puis ensuite, Georges Oudart, que j'ai un peu connu. Georges Oudart était surtout un journaliste d'hebdomadaire, surtout. Mais c'était un très, très bon journaliste. Puis alors, après, nous avons eu Kessel. Alors, pas besoin d'expliquer aux auditeurs qui est Kessel, qui a été président du jury pendant, je ne sais pas combien d'années. Nous n'avons pas tellement de présidents. Je suis le cinquième. Le prix 1933. Il a été interrompu pendant les années de guerre, c'est le 66e prix, et nous avons eu que 5 présidents. Il y a eu Kessel, remarquable journaliste, remarquable romancier, remarquable écrivain, et homme assez extraordinaire, Kessel. Et puis ensuite, un homme que l'on a connu, il s'agit de James Le Coquet, que l'on a connu à travers la remarquable, étincelante chronique culinaire qui venait dans le Figaro
dans
Magazine.
Le Figaro, oui, qui était de l'histoire Figaro de la cuisine,
magazine, qui était
propos de table,
d'une
ça
écriture,
s'appelait.
Les propos de table. Propos de d'une table. Écriture, pas culinaire, gastronomique, d'une écriture extraordinaire. Enfin, bref. Mais c'était parce qu'il
qui
était...
Qui avait été un grand reporter.
Oui, c'était parce qu'il avait un certain âge. Mais avant la guerre, c'était un grand reporter. Et tout de suite après la guerre, un grand reporter de grande qualité. Et puis, j'ai succédé à Coquet... Il y a donc 20 ans.
Bientôt. Alors Henri Amouroux, permettez-moi de rappeler que vous-même, vous avez effectué de nombreux grands reportages pour le quotidien Sud-Ouest, d'abord entre 1949 et 1968, quotidien Sud-Ouest dont
et
vous étiez le directeur, et beaucoup plus tard, en Yougoslavie, en Israël, au Vietnam, au Canada, en URSS, des reportages qui ont donné lieu chaque fois à plusieurs livres, dont je cite les titres parce que on connaît maintenant beaucoup vos livres d'histoire et il ne faut pas oublier vos livres de reportages, sur l'Indochine, Le Monde de long en large, J'ai vu vivre Israël, et deux romans à style reportage aussi, Une fille de Tel Aviv et Le ghetto de la Victoire.
Oui.
Donc Sud-Ouest, pour vous, ça reste votre grand journal que vous avez dirigé de quelle année à quelle année?
Non, mais d'abord Sud-Ouest, je n'ai d'abord pas dirigé.
Oui, vous n'avez pas commencé par le diriger, vous avez
on commence
commencé
pas par
y être.
Diriger. Non, mais il y a des gens qui pensent qu'ils ont
ça
dirigé.
Ça dépend à quel âge.
Il y a des gens qui pensent qu'ils ont dirigé tout de suite. Non, j'ai commencé comme tout le monde, c'est-à-dire, bon, en commençant... Oh, 22 ans, 23 ans.
Vous vous occupiez des livres, je crois, non?
Oui, oui, mais parce que, je vais vous expliquer... Là, qu'est-ce que c'est que la libération? C'est une révolution. Qu'est-ce que c'est qu'une révolution? Le principe est très simple. Ceux qui sont dessus deviennent dessous, et ceux qui sont dessous passent dessus. Et à partir d'un certain moment, dans une révolution, on peut faire ce qu'on veut, du moment qu'on est dessus, au pouvoir. Bon. Alors, bon, il n'y avait pas beaucoup de place dans les journaux. Il y avait une feuille recto-verso, puis après deux, puis à quatre.
Mais il
n'y
avait pas beaucoup de papier, pour bien dire.
Mais non, mais il n'y a pas beaucoup de pages, parce qu'il n'y a pas de papier. Et alors, on pouvait faire ce qu'on voulait si on voulait travailler. Bon, moi j'aime le travail, c'est vraiment une chose que j'aime beaucoup le travail. C'est ma passion parce que je fais le travail que j'aime aussi. J'aime le travail, mais je fais le travail que j'aime. Donc j'ai aucune vertu particulière dans ce domaine. Alors, tout me passionnait, je n'aimais pas du tout les vacances, je continuais à ne pas les aimer beaucoup. Et du moment qu'on voulait faire les choses, Je me suis trouvé, alors qu'avant, il fallait attendre d'avoir une barbe et puis d'avoir, je sais pas moi, 50 ans, 52 ans pour faire la critique littéraire. Je me suis trouvé à 25 ans, 26 ans, chargé de la rubrique littéraire parce que, bon, la place... Parce qu'on partait du néant, on crée, là, comme ça, on crée un nouveau journal. Il n'y a pas de papier, puis quand il y a du papier, ben, il y a des places à prendre, il faut les prendre. Et puis voilà, là, je n'avais pas d'importance à l'époque. Et donc, voilà, j'ai fait la critique littéraire pendant des années, pendant 15-16 ans, je ne sais plus, tous les mardis. Le mardi était mon jour de repos, parce que je travaillais le samedi et le dimanche, le mardi était mon jour de repos, je le consacrais à faire ma critique, à lire. Naturellement, en sachant qu'il faut prendre les trains, un auteur, c'est comme un écrivain, c'est comme un train qui passe. Vous êtes là, vous montez dans un wagon, mais avant il y a la locomotive et puis 5 ou 6 wagons. Il faut quand même que vous connaissiez la locomotive, 5 ou 6 wagons. Vous ne m'arrivez pas, en parlant du livre, sans avoir lu les... Enfin, oui, au moins, je me souviens avoir passé, bon, son nom ne va plus dire grand-chose peut-être, avoir passé un mois entier avant d'écrire un article sur Charles Dubos. Est-ce que ça dira encore grand-chose, Charles Dubos? Bon, mais là j'avais 25 ans, et qui était un journal du soir... Il y avait 7 journaux à Paris, à Bordeaux. J'avais une bagarre quotidienne. Il y avait 2 journaux communistes, un du matin, un du soir. Et moi, j'avais créé un journal MRP. Et c'était des tombereaux d'injures quotidiennement. Enfin, bon, c'était passionnant. C'était rigolo. C'était une période assez bon. Dure, très dure, mais amusante. Ça valait la peine. Alors, bon, il n'y avait pas comme aujourd'hui. On ne peut rien écrire sans être... On s'engueulait, mais il répliquait comment on faisait l'ancien.
Oui, mais on répliquait par la presse, par voie de presse. On ne passait pas par le tribunal.
Non, bien sûr que non.
Sauf exception, bien sûr.
Bon, c'est comme ça. Alors, c'est comme ça. Alors,
c'est comme ça que vous êtes un jour devenu directeur.
Je suis un jour. En 67, oui, 67, en hiver 67, Jacques Lemoine, qui était propriétaire, qui avait été l'un des créateurs du journal, l'un des fondateurs à la Libération, j'avais été de l'équipe fondatrice, enfin il avait 21 ans, 23 ans de plus que moi, nous avions un peu des rapports père-fils. Je voulais partir, je ne voulais plus rester à Bordeaux, je voulais refaire du grand reportage et j'étais en train d'acheter une maison, un moulin d'ailleurs, à Clairefontaine, très beau moulin, avec un hectare de terrain, très très beau, ravissant moulin. Et puis, je lui dis, je voudrais vous voir. Quand on dit ça à quelqu'un, je voudrais vous voir, c'est qu'il y a quelque chose dans le gaz.
Oui, oui.
Alors, nous dînons, sa femme et moi, il m'invite chez lui à dîner avec sa femme et ma femme, n'est-ce pas? Et donc, il me dit, Henri, qu'est-ce qu'il y a? Ben, je lui dis, voilà, je voudrais démissionner, je suis rédacteur en chef, j'en ai marre, je veux revenir à Paris, je veux refaire du grand reportage. Ce qui était une grande erreur psychologique de ma part. Je raisonnais comme un tambour, car il est très difficile d'être dirigé par ce qu'on a dirigé. C'est très difficile. Bon, enfin, bon, ils étaient gentils, ceux que j'avais dirigés. On les dirigeait gentiment, mais enfin, bref. Et le moine me dit, c'est ennuyeux, Henri, parce que moi, je voulais vous demander de devenir directeur général adjoint. Et il ne se sentait pas très bien. Il se sentait mal, pas très bien. Alors, je sors, je lui dis, écoutez, je donnerai ma réponse en 8 jours. Je dis à ma femme,
choix.
Je ne peux pas faire ça, le moine, parce qu'on vit ensemble. Je le connaissais depuis longtemps, je l'aimais bien. Il y avait d'abord... Et alors je dis oui, je suis nommé directeur, par le conseil d'administration de janvier 68, directeur général adjoint. Je vais finir un livre en Israël, c'était d'ailleurs le ghetto de la victoire, dont j'ai cité le titre tout à l'heure, c'est pas un livre qui restera dans la littérature française, mais avec ce titre, le ghetto de la victoire, j'étais assez dans les clous, hein. C'était assez dans ce qui se passe, c'est un peu, j'avais vu assez juste, le ghetto de la victoire, ça veut dire que vous avez gagné et vous êtes prisonnier de votre... Vous, quand on me disait, nous sommes de bons occupants, je disais non, c'est pas à vous de dire que vous êtes de bons occupants, c'est aux occupés. Bon, bref, j'ai écrit ce roman, le ghetto, et j'étais là-bas en Israël, pour finir, j'étais dans un hôtel qui s'appelait, c'est à Tel Aviv d'ailleurs, qui s'appelait l'hôtel Atlantis, parce qu'il était situé sur la Méditerranée, donc il s'appelait l'hôtel Atlantis, bien entendu. Tenu par des Israéliens d'origine autrichienne, des Juifs d'origine autrichienne, et là, il était 9h du soir, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas le téléphone portable, il n'y avait pas tous ces trucs formidables, merveilleux et à la noix, et qu'on a aujourd'hui, qui permettent de connaître les choses à l'instant où elles se passent. L'AFP, l'agence française de presse de l'AFP, me demande de venir, disant, il y a un message pour vous, très important. J'ai 4 enfants. Je croyais qu'il était arrivé un accident. Oui, il était arrivé un accident. Jacques Lemoine était mort subitement. Décédé, rue Cortambert. Il avait un pied-à-terre rue Cortambert à Paris. Et il était mort subitement. Et évidemment, je reste pas. Il y avait 3 jours, 2 jours, j'étais à Tel Aviv. Je prends un avion de nuit qui venait de Tokyo. Et je rentre à Paris tout de suite. Et je suis ipso facto. Après, par un l'autre conseil d'administration, je suis nommé directeur général, plus adjoint, mais directeur général du groupe Sud-Ouest, qui est le 3e groupe de presse français. Et c'est en 68, j'ai la chance d'avoir 68.
Le grand reportage et le prix Albert Londres. Nous allons vous donner rendez-vous pour une prochaine émission, car nous allons continuer à évoquer ce prix prestigieux de journalisme, le prix Albert Londres. À bientôt.
Vous écoutez Canal Académie.